N'oubliez personne, c'est dire en quelque sorte, comme diraient certains, aux premiers de cordée, n'oubliez pas les derniers de cordée. Et je crois beaucoup, moi, à cette métaphore, pour celles et ceux qui aiment la montagne. Un premier de cordée, il a une corde et il est rattaché à d'autres. Et c'est à dessein que j'ai employé cette formule. Il y a toujours des gens pour ouvrir une voie, il y a des gens plus véloces, il y a des gens qui ont plus de chance. Il y a tout un tas de raisons, mais il en faut. Et tirer sur la corde pour qu'il monte moins vite n'aidera pas ceux qui restent en bas. C'est faux. Et c'est ce qu'on fait depuis des années parfois. Et tirons la corde du premier, qu'il n'aille pas galoper dans les hauteurs de la montagne, des fois qu'il aille voir le col et passer derrière. Ça n'aide en rien ceux qui restent en bas de la montagne.
Dans ce discours du 13 septembre 2018, devenu célèbre pour cette métaphore filée de l'alpinisme social, Emmanuel Macron prenait des engagements pour lutter contre la pauvreté. C'est également lors de ce discours qu'il présentait ses ambitions pour l'insertion par l'activité économique, porté à 240 000 le nombre de contrats d'insertion, soit 100 000 de plus, en y allouant un budget global d'1 milliard d'euros. La crise sanitaire et économique actuelle aura sans doute perturbé le plan d'action macronien. Se pencher sur le secteur de l'insertion aujourd'hui permet néanmoins de comprendre les politiques sociales d'un gouvernement acquis au libéralisme économique. Des politiques qui mettent les directions comme les permanents de l'insertion par l'activité économique face à des injonctions contradictoires. Un accompagnement social dicté par les valeurs de solidarité à l'origine de la création de l'insertion par l'activité économique. Des impératifs de résultats en termes de retour à l'emploi. La nécessité d'un équilibre financier des structures dans un marché concurrentiel. Pour mieux comprendre l'insertion par l'activité économique, deux points de focus. D'abord, son histoire. Née dans les années 70, à l'initiative d'organismes comme ATD Quart Monde, elle visait moins le retour à l'emploi que l'autonomie par le travail pour les personnes qu'on appelait alors des inemployables. Les premières entreprises d'insertion portaient également dans leur ADN une critique de l'assimilation du travail social comme contrôle des populations et une autre du travail en lui-même comme organisation sociale. Au cours des décennies suivantes, l'insertion par l'activité économique s'institutionnalisera peu à peu jusqu'à son inscription dans le Code du travail avec la loi contre les exclusions en 1998. Les contours en sont aujourd'hui clairement définis. Il s'agit de dispositifs pour les chômeurs et chômeuses très éloignés de l'emploi, bénéficiaires du RSA, de l'ASS, voire sans ressources. Elle touche des publics rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Elle propose des parcours d'insertion de 24 mois maximum qui comprennent une mise en situation professionnelle, un accompagnement professionnel et social, des actions de formation. Deuxièmement, le quinquennat d'Emmanuel Macron tend à reconfigurer le travail social de l'insertion par une rationalisation des finances publiques dictée par des restrictions budgétaires, par une managérialisation de la gestion des structures, par une libéralisation des marchés de l'insertion. Des orientations qui tendent à faire passer le sens initial de l'insertion, échapper à la domination salariale, au second plan. Le point de départ macronien se situe en 2017, avec la baisse drastique des crédits alloués aux contrats aidés. Un plot social, comme le qualifie la CGT Mission Locale, qui a fait basculer ses bénéficiaires soit dans l'insertion, soit pour les plus jeunes, vers les services civiques ou le volontariat. Voilà pour le cadre. Note d'intention. Dans cette enquête, nous donnons la parole à l'ensemble des acteurs et actrices de l'insertion. Salariés accompagnés dans les dispositifs d'insertion, permanents des structures, directions, acteurs institutionnels, pour construire une vision critique de cet angle mort du monde du travail. En creux, nous avons cherché à comprendre les doctrines qui balisent les politiques publiques de l'insertion par l'activité économique.
On a l'obligation, quelque part, de morale, de tout faire pour mettre le salarié au centre du dispositif et pas la structure au centre du dispositif. Pas l'intérêt de la structure, mais l'intérêt du salarié.
Benoît, gérant et administrateur de structures d'insertion.
Mais cet équilibre entre l'intérêt du salarié et l'intérêt de la structure, il est compliqué à gérer. Parce que si le salarié ne fait rien, ben, la structure va se casser la figure. Alors, on n'est pas là pour avoir de la productivité du salarié. Mais quand même, il faut aussi que la structure elle s'en sorte et elle vive. La deuxième chose, c'est que on prépare des gens à aller dans le marché classique. L'enjeu, c'est de permettre aux gens, non pas de rester chez nous, mais c'est de permettre aux gens de trouver un emploi durable. C'est ça l'objectif. C'est une fois que les gens, il n'y a plus de problème pour être employé, c'est l'alternative de sortir. Maintenant, l'autre emploi durable. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage complet entre ce que nous, on fait dans notre structure et ce qu'ils vont trouver demain. Sinon, ils ne vont jamais sortir, d'abord. Jamais vouloir sortir. Et puis, c'est leurrer les gens, aussi. C'est leurrer. Donc, il faut trouver cet équilibre entre comment on propose à des gens de se préparer à aller sur le marché du travail classique pour trouver un emploi durable, parce que c'est là qu'il va être l'emploi durable, et en même temps que nous, on mette en œuvre toutes les actions qui permettent aux gens de les, pas les coucouner, mais de les mettre dans un cadre où ils vont être, où va être le centre du dispositif et pas l'activité qui va être le centre du dispositif. Vous comprenez un petit peu cette difficulté qu'il y a entre les deux. Donc, il faut en même temps tout mettre en œuvre pour que on soit véritablement des structures de l'insertion par l'activité économique et des structures de l'économie sociale et solidaire. Mais en même temps, les gens, quand ils vont sortir de chez nous, ils vont se retrouver aux dures lois, devant les dures lois du marché.
Il y a souvent un débat, et par période, il revient sur la situation du RSA, la situation des bénéficiaires du RSA dans notre pays. Certains départements ont des expériences diverses. Nous, on a fait un choix. Le meilleur moyen de permettre aux gens de RSA de sortir, c'est aussi de développer l'insertion et de travailler sur tout ce qui est la remise à l'emploi.
Jean-Marc Tellier, maire de la commune d'Avion, vice-président du département au RSA, à l'insertion et au logement.
L'idée, c'est de dire comment on peut permettre à des gens au RSA de remettre le pied à l'étrier, en sachant que chacun a un itinéraire différent. Ce qui est sûr, c'est qu'on décrit souvent les bénéficiaires du RSA, hein, on explique plein de choses. Moi, je ne les envie pas, je crois que personne ne peut les envier. Et la meilleure façon de les faire sortir du RSA, c'est de leur permettre de retrouver le monde de l'emploi. Mais il y a aussi, quelque part, une formation. Il y a des gens, l'insertion permet de remettre le pied à l'étrier, de reprendre des habitudes quotidiennes, ne serait-ce lever le matin, ne serait-ce d'aller à un endroit, de retrouver une vie sociale, de réapprendre des règles du travail. Et c'est le but, c'est pas de les garder des années à l'insertion, c'est justement à partir de l'insertion, il faut qu'il y ait des sorties positives. Donc soit des gens qui reprennent leur formation, une formation pour trouver un emploi, soit des gens qui partent à l'emploi. Donc ça nous paraît la solution pour nous la plus efficace d'avancer sur les questions du RSA.
Les structures d'insertion sont de plusieurs types. Entreprises intermédiaires, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion. Les salariés sont employés en CDD d'insertion d'une durée minimale de 4 mois, renouvelable dans la limite d'une durée de 24 mois, ou en CDD d'usage, dit contrat de mise à disposition, déterminé à l'heure selon l'ouvrage. Le plus souvent rémunérés au SMIC horaire pour une durée moyenne de 25 à 32 heures, ces contrats ne permettent que difficilement de sortir de la précarité. Un paradoxe au regard des objectifs de l'insertion.
Quand j'étais dans un autre secteur, pendant quand même 14 ans, j'avais travaillé pour le Conseil Général et puis une association à côté, c'était pas trop mal. Ça me permettait de faire presque un 35 heures, quoi.
Florent, salarié en insertion, en contrat de mise à disposition, puis en CDDI dans un atelier et chantier d'insertion.
Et puis après, je suis arrivé, j'ai changé de secteur. J'ai fait 2 ans pour une mairie. Mais après, j'ai toujours travaillé pour cette mairie, mais via une association. Là, par contre, ça n'a plus été le même, quoi, parce qu'au niveau avantage, au niveau... Et ça s'est arrêté au moment des contrats aidés. J'avais eu un contrat en 2016. Et puis ça s'est arrêté en 2018. Et là, c'était plus pareil, quoi. Ça s'est dégradé. On n'était pas considérés en tant que... Très bien considérés, quoi, plutôt. Avant, c'était des contrats aidés. Après, ça a été des contrats de mise à disposition. Et au niveau salaire, c'était... Comment voulez-vous tenir avec un salaire de 600 euros par mois? C'est pas possible, quoi. Quand vous avez payé toutes vos charges, il vous reste quand même pas 100 euros pour vivre, quoi. 20 heures, c'est peu, c'est trop peu. Là, actuellement, j'étais à un moment record, à un moment sans rien. Et après, là, j'ai retrouvé par biais d'une association, et là, c'est beaucoup mieux. Parce que là, on fait 26 heures par semaine, et pour 900 euros par mois. Plus la prime d'activité, qui est de 150 euros, ça fait 1 000, 1 050 euros. Là, c'est beaucoup mieux, quoi. Le désavantage qu'on a, c'est que ben, je payais moins d'APL, puis là, je vais repayer beaucoup plus d'APL. Au lieu de rester, il nous reste 100 euros tous les mois, ben, il nous reste 250-300 euros quoi, pour vivre. Bon, au moins, là, on peut faire des petits extras. Car avant, on ne pouvait pas, quoi. Pour moi, une des premières associations que je rencontre actuellement, depuis tous ceux que j'ai rencontrés avant, reconnaissant envers nous, quoi. Je veux dire, on se retrouve considéré, au moins on voit qu'on est utile à la société, que ce n'était pas le cas avant. Financièrement, c'est mieux. Puis d'avoir de l'espoir de retrouver un petit quelque chose à côté, quoi. Quitte à avoir un 35 heures, ça serait pas mal, quoi. Là, bon, ça nous ferait monter à 1300 plus la prime d'habiter, on sera à 1500. Là, ça serait bien, quoi. Ça vaudrait le coup. Mais bon, comme je vois que c'est beaucoup mieux qu'avant, bah, faut y croire, quoi. Faut se battre tous les jours.
J'avais un suivi auprès d'une association, suivi dans le cadre de mon RSA.
Richard, ancien salarié sur un atelier et chantier d'insertion.
L'accompagnement était censé être renforcé, mais en fait, j'ai fait chaque démarche seul. Et jusqu'au jour en fait, où cette personne-là m'a passé un coup de téléphone pour me proposer donc, d'avoir un contrat avec sa structure. Elle m'a expliqué brièvement de quoi il s'agissait. Moi, j'ai juste vu une grosse opportunité. Puisqu'avec mon âge, en tant qu'ancien technicien, les recrutements, ça n'avançait plus. J'ai dit oui. Et donc, à partir de là, s'en est suivi donc, un premier contrat de 6 mois. C'est un contrat à durée déterminée. Et en fait, j'ai moi exercé dans le bâtiment, en l'occurrence. Je dirais que le moment difficile, c'est quand vous êtes obligé, pour faire vos heures, de venir sur place, de vous apercevoir qu'en fait, il n'y a plus de chantier. Et vous êtes convoqué pour rester dans une pièce avec chauffage, mais avec aucune activité pendant toutes vos heures. Ça dure un jour, puis 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et un aspect coercitif à ce moment-là que moi j'ai perçu. Parce qu'en fait, cette inactivité ponctuelle venait simplement du fait que le directeur de la structure n'avait pas réussi à trouver de contrat, mais en fait, il n'en avait pas cherché. Il n'a pas vu que le fait d'avoir des personnes sous contrat de travail les affecter à aucune tâche, à un placard, pouvait être quelque part un petit peu malmenant. Les autres moments où je les vivais mal, c'est quand le directeur me claquait des doigts pour me faire vider les poubelles ou nettoyer au Karcher le véhicule d'un tel ou d'une telle pour m'occuper. Tout devait être accepté, parce qu'après tout, c'était de l'insertion. Il ne fallait pas se plaindre.
Pour le mois de février, j'ai touché 1077 euros pour 120 heures. Voilà. Finalement, je serais peut-être mieux au RSA. Je veux dire, j'aime travailler, mais finalement, bah, au RSA, j'aurais d'autres aides. L'un dans l'autre, je suis perdante peut-être d'aller travailler.
Karine, salariée en insertion en contrat de mise à disposition dans un collège.
J'ai 49 ans, je travaille pour MSIL et je travaille dans les collèges. Je fais une reconversion professionnelle suite à une maladie. J'ai travaillé en tant que vendeuse pendant presque 30 ans. Et puis bah, maintenant, je travaille dans les collèges et je fais du ménage. On est là certainement pour aider les titulaires. Soit en cuisine, soit le nettoyage des classes, nettoyage de bureaux. Et puis, on fait un peu de tout. On est là pour aider les titulaires, mais ça ne se passe pas réellement comme ça. On est obligé de s'investir plus et d'avoir le même travail qu'une titulaire tout en étant un emploi aidé. Avant, on était payé par le département. Aujourd'hui, on a perdu des avantages. Les vacances scolaires étaient payées. Et je suis perdante, puisqu'ils me payent mes congés payés dans le peu de salaire que j'ai déjà. Donc, en fait, quand je ne travaille pas, je n'ai plus l'avantage que j'avais avant d'avoir un salaire pendant les vacances scolaires. Ça arrange tout le monde, en fait, sauf nous. C'est un salaire minimum pour un travail maximum.
J'ai 28 ans. Je suis actuellement en contrat de travail depuis 2018, quelques heures par mois, et je suis agent proposé.
Maxence, salarié en insertion en contrat de mise à disposition pour des ménages chez les particuliers.
Alors, j'ai commencé par un BEP métier de l'hygiène, la propreté et l'environnement au lycée Savary. Ensuite, j'ai continué en bac, pareil, niveau, toujours dans le métier-là, de l'hygiène, la propreté et l'environnement. Et j'ai donc commencé en 2012 à travailler pour APEC, où on va dire que le niveau de travail, c'est pareil, c'est quand même encore pire que ce que j'ai pu avoir là maintenant. Ensuite, j'ai fait une formation d'agent tôlerie. Ensuite, j'ai aussi fait une formation de CARIS, d'entrepôt. Mais entre-temps, en fait, j'ai eu également, même en tant que futur professionnel à l'ASM, où j'ai fait deux missions, quand même. Ça rapporte pas des masses, parce que à partir du moment où je travaillais pas beaucoup d'heures, j'ai eu quelques salaires, on va dire, deux mois de salaire, quoi. C'est surtout qu'en fait, c'est toujours des contrats précaires, donc c'est pas ça qui fait avancer, quoi. Et c'est pas ça qui fait qu'on obtient un CDI, quoi. C'est que, ça rapporte pas beaucoup de sous, c'est vraiment très léger, quoi. On nous propose des missions qui sont par exemple de 6 heures par semaine ou de 8 heures par semaine, mais ce genre de contrôle n'est pas adapté pour avoir une situation durable et se permettre d'avoir un appartement, par exemple. C'est pas suffisant.
La mise à disposition pourrait être un bon dispositif, ça peut être adapté à certaines personnes.
Kelly, conseillère en insertion professionnelle.
Moi, je l'ai trouvé utile dans le cadre de situations bien particulières. Par exemple, une femme seule qui a des enfants à charge et qui souhaite reprendre une petite activité, on peut commencer par quelques heures de mise à disposition si, bien évidemment, le secteur d'activité lui convient. Mais on peut, du coup, lui confier quelques heures et faire en sorte que ces heures, elles soient calées pendant les horaires d'école pour éviter de la garde d'enfants ou en tout cas des frais supplémentaires, et aussi pour permettre à la personne d'avancer doucement et sûrement dans son parcours. Sauf que généralement, on avait des personnes qui travaillaient depuis déjà quelques années en mise à disposition, et de ce fait, ben, on les maintient dans une situation de précarité. Puisque les CDDU, c'est un salaire au SMIC, congés payés inclus, tout est inclus.
Si l'on ne considère l'insertion que par le prisme de retour à l'emploi, elle semble échouer à sa mission. Selon les chiffres de la DARES, Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques, les deux tiers des personnes sont sans emploi, à court, moyen ou long terme, après leur passage en insertion. À resituer selon des territoires où le chômage est massif, ces données remettent en cause le bien fondé d'une politique du chiffre qui conditionne une obligation de résultat. Aussi, l'emploi comme seul aiguillon du parcours d'insertion contraint le travail d'accompagnement, les perspectives professionnelles, les actions de formation, au détriment de l'épanouissement et de l'avenir des salariés accompagnés.
Mon travail est d'encadrer des personnes qui sont loin de l'emploi, les remonter à un niveau de travail classique entre guillemets, et les lever tout ce qui est freins sociaux. Régler toutes leurs problématiques, emploi, logement, addiction, problèmes perso aussi en même temps, les aider à se relever et puis les faire redémarrer sur une bonne base.
Bastien, encadrant technique d'insertion.
Il y a des suivis sur lesquels on va bien s'attarder et où on va les remonter. Par contre, d'autres suivis où tout ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent à l'emploi. Maintenant, il y a deux vitesses. Il y a la vitesse des personnes, des encadrants sociotechniques qui ont des chiffres à produire. Donc c'est soit on fait de l'abattage entre guillemets comme au Pôle emploi, ou alors on prend vraiment le temps et puis là on travaille en profondeur. Le problème, c'est d'être au bon endroit. T'as plusieurs structures qui sont là pour que les gars bossent, et t'as des structures qui sont là pour que les gars puissent aller bosser. Une structure qui va tout faire pour que les gars bossent, c'est par exemple, on va prendre un chantier qui est censé faire une semaine en entreprise, qu'en insertion, on est censé mettre 2 semaines et demie, et on va la tirer à 1 semaine et demie, histoire d'en faire beaucoup, histoire de se montrer, histoire de... Mais après, les gars, on s'en fout. On s'en fout de savoir s'ils en sont capables, s'ils en ont les reins, parce qu'il faut quand même avoir les reins pour faire un chantier, et avec une certaine pression. Et à côté de ça, t'as des chantiers, t'as des structures où... Le chantier en entreprise fait toujours 1 semaine, en insertion 2 semaines et demie, et puis ils sont tolérants à dire, bon, même si c'est 4 semaines, du moment que c'est bien fait et que les gars puissent apprendre, là au moins on est gagnant.
J'ai travaillé en tant qu'encadrant, c'était une première expérience pour moi. J'ai d'abord signé un CDD de 6 mois qui devait donner suite à un CDI que je n'ai pas voulu signer.
Emeric, ancien encadrant technique d'insertion.
Alors les conditions de travail, j'ai envie de dire que sur le papier, lors de l'entretien, ça paraissait bien, c'est-à-dire quelqu'un qui était soucieux de l'avenir des personnes qui étaient en insertion. Et donc voilà, j'ai surtout senti quelqu'un qui était peu soucieux au final, quoi, dans la pratique de l'insertion en elle-même. J'ai plutôt vu un chef d'entreprise comme une entreprise privée qui est soucieux du profit et de l'avancement des chantiers, alors que lors de l'entretien, c'était ben, vous avez le temps, ce que je veux, c'est le bien-être des salariés et leur épanouissement. Mais bon, ça, c'était dans les dires. C'était voilà. Là, dans la pratique, j'ai quand même eu une demande de rendement. Et après, je n'ai senti aucun souci pour l'avenir et le développement des salariés. Jamais. La preuve, ils ne connaissaient pas leur prénom. Le matin, il a demandé 3 fois à une personne ce qu'elle foutait là, alors que ça faisait 3 mois qu'il était là. Jamais rien sur l'épanouissement du salarié, l'épanouissement, je veux dire, psychologique et également sa progression professionnelle, quoi. Jamais de... aucun intérêt, quoi.
C'est des contrats en CDD, c'est du droit commun en CDD, simplement qui sont des insertions. Alors la partie insertion, elle est très importante, parce qu'elle détermine une aide d'État à 80% quand même pour les chantiers d'insertion et à 20% pour une entreprise d'insertion.
Jean-Rémy, coordinateur technique et pédagogique pour des chantiers d'insertion de maraîchage biologique à Croix-Rouge Insertion, représentant Asso Solidaire.
Mais en contrepartie, il faut accompagner la personne. C'est-à-dire que cette aide d'État, elle est mise face à l'accompagnement que tu vas faire des personnes. Elle conditionne un accompagnement. Et quand tu grattes, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. C'est que les mecs, ils marnent, ils travaillent, mais tu leur dis, t'as passé des formations. Ah non, mais on leur fait pas passer de formation parce que s'ils passent des formations, ils sont pas au travail. Je crois aux insertions, mais comme à l'extérieur. J'entends des fois des permanents qui croient que simplement parce qu'ils aident les gens, ben les gens devraient tout accepter, barder comme des imbéciles, être sous-payés. Mais sans les salariés en parcours, on n'est rien. Donc à un moment donné, il faut leur redonner leur place au sein du groupe. Ils sont des collègues de travail. Vous travaillez avec eux. Ils font partie de la dynamique de la structure. Donc à un moment donné, il faut leur donner de la valeur. C'est bien beau de parler de porter des valeurs humaines et de pas les appliquer aux gens qui avec qui on bosse. Quoi. Mais après, il faut pas que ça soit des clients ou des bénéficiaires. Je déteste ces mots-là pour moi. Moi, je les appelle mes collègues de travail. Quoi. Moi, souvent, je dis aux gens, quand vous savez plus où est ce que vous faites sur les jardins, quand vous avez un doute, rappelez-vous votre mission. C'est d'accompagner des personnes vers l'emploi durable. C'est l'unique mission, et c'est d'ailleurs la mission qui est donnée au départ.
Les salariés en insertion se voient pris dans une double contrainte. Être productif pour la structure, ce qui peut impliquer une sélection des personnes les plus compétentes a priori et une marginalisation de la formation in situ, mais aussi a posteriori, une orientation vers des métiers qui correspondent aux besoins du marché. Pour éviter l'écueil du tout chiffre, production et sortie positive, il est admis d'envisager l'insertion à l'aune de son impact social, c'est-à-dire de l'ensemble des conséquences des activités des structures d'insertion par l'activité économique sur les bénéficiaires, sur les salariés, sur le territoire et la société en général. Le terme est néanmoins ambigu, puisqu'il peut être absorbé dans les nouveaux managements publics qui visent la rationalisation de la gestion des structures au détriment de l'action sociale.
Moi, je suis toujours dans une démarche où on se dit il faut que ce soit une démarche gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est d'abord à la structure elle-même de se poser des questions sur savoir c'est quoi son impact social, c'est quoi sa façon de fonctionner, c'est quoi son objectif, c'est quoi son... Enfin, les perspectives qu'elle offre au public qu'elle accompagne. Une fois qu'on a dit ça, le risque est de tomber dans le tout chiffre. Honnêtement, moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis dans le système de l'insertion par l'activité économique, je n'ai jamais senti une pression qui va jusqu'au-delà du raisonnable, quoi, entre guillemets. L'enjeu, c'est avant tout les gens, c'est avant tout les personnes.
Et ce qui est important, c'est de s'assurer justement à ce que les associations atteindre des objectifs. Alors les objectifs, ce n'est pas forcément du retour à l'emploi, mais ce qu'on appelle les sorties positives. Il y a un nombre qui entame une formation professionnelle, d'autres qui trouvent un emploi. Ça peut être en CDI ou en CDD. Mais voilà, donc il y a tout ce travail de suivi, mais il y a aussi tout ce travail de dynamique qui est mis par le département, puisqu'on a créé une mission insertion-emploi qui va aussi, aujourd'hui, chercher à la rencontre des employeurs pour justement chercher des possibilités de faire correspondre les gens en insertion ou les gens au RSA qui puissent correspondre à la recherche d'emploi. C'est un boulot, je dirais, quotidien pour le département et de suivi. Et puis, une fois qu'on a des fonds européens, il faut atteindre des objectifs. Et le département va au-delà, puisque nous payons aussi des postes d'encadrants socio-professionnels, qu'on finance aussi des postes d'encadrants techniques. On essaye justement de suivre et d'avancer le plus possible. Et on travaille aussi sur les contrats, les marchés publics, s'assurer qu'on y mette de plus en plus une clause d'insertion pour pouvoir justement permettre à ces gens de pouvoir avancer.
Par rapport à cette question de sortie positive, jusqu'à quel point ça peut conditionner aussi le travail d'accompagnement ?
Avant tout, on parle d'être humain, on ne parle pas de chiffres. Chacun a un parcours de vie, j'insiste sur le parcours de vie. Alors forcément, les objectifs sont importants à atteindre, mais moi je crois que d'abord c'est de transformer le parcours de vie. Ça peut être aussi dans le domaine social, dans le domaine de réinsérer des gens, ne serait-ce se réorganiser dans la vie. Le résultat, il ne peut pas forcément se mesurer qu'en chiffres.
Qu'est-ce qui peut être mis en place ou qu'est-ce qui est mis en place pour éviter aussi de reproduire des modes de gouvernance qui soit celle des entreprises privées.
Ce que disent clairement l'État et nos partenaires, c'est que le gain, il n'est pas à court terme, il est à long terme. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce n'est pas la petite économie qui se fait pendant le temps de l'insertion, pendant le temps de l'activité économique, mais c'est le gain quand, au bout d'un an, deux ans, la personne retrouve un emploi normal, l'État n'a plus à payer. Mais qu'est-ce qui est important pour la personne ? Ce n'est pas qu'elle trouve un boulot, si bien sûr c'est important qu'elle trouve un boulot, mais surtout qu'elle progresse vers cet emploi, qu'elle construise sa vie, qu'elle construise son environnement. Donc qu'est-ce qu'on mesure ? Est-ce qu'on mesure l'accès à l'emploi ou est-ce qu'on mesure la progression de la personne ? Et les indicateurs sont complexes parce que les gens sont très différents les uns des autres. Et ça, de plus en plus, on essaye de mesurer justement comment on fait progresser les gens, comment on fait vers l'emploi, parce que c'est ça le but.
Il y en a très peu qui vont justement répondre aux objectifs qui sont attendus, qui sont principalement l'emploi durable, qui n'est jamais vraiment durable en fait, puisque le département peut être capable de se contenter qu'une personne sorte du dispositif du RSA pour arrêter de financer l'accompagnement. Sauf que on sort du dispositif du RSA en travaillant en intérim ou en CDD de 2, 3, 4, 5 mois. Mais ça ne résout pas tous les problèmes que peut rencontrer la personne. On arrête l'accompagnement et puis elle sort du dispositif. Et puis ensuite, elle revient parce que la situation n'était pas stable et que l'emploi était toujours aussi précaire que la situation vécue sans emploi. Je pense que le principal objectif... Alors je vais parler, je pense que pour le département du Pas-de-Calais, les départements peut-être, c'est de financer un dispositif d'insertion pour faire sortir des gens de ce dispositif d'insertion, pour arrêter de financer le RSA coûte que coûte, même si au final on n'aura rien apporté de plus qu'un emploi précaire.
Il y a des chiffres à remplir, il faut faire tourner la boutique quand même, donc la production et puis les impératifs sont pas toujours les meilleurs. D'un côté, il y a les institutions, tout ce qui est partenaires qui veulent du rendement, enfin du rendement entre guillemets, mais des résultats. Et de l'autre côté, il faut bien faire tourner la sauce. Si on ne la fait pas tourner, forcément, elle ne pourra jamais rester.
Est-ce que les personnes qui sont accompagnées là-dedans, elles peuvent trouver leur compte entre ces impératifs qui sont chiffrés ?
Elles peuvent y trouver leur compte, pour certaines. Il y en a d'autres pour qui, comme c'est beaucoup plus long, ça va être beaucoup plus de travail par rapport au mien ou alors par rapport à mes collègues. Il y en a pour qui vont ressortir comme ils sont rentrés, voire pire. Il y en a, ils arrivent avec un semblant de dignité et puis quand ils ressortent, en fait, ils se sont sentis lésés, ils se sont sentis abandonnés. Par contre, à côté de ça, tu as les personnes qui arrivent avec rien et qui ressortent avec beaucoup plus.
Et alors, pourquoi il y a des personnes qui se sentent lésées ?
dans ces dispositifs d'insertion ?
Par rapport aux doubles vitesses ? Si tu apprends vite, si tu réagis vite, si tu fais tout dans le bon sens et que tu y arrives facilement, tout va aller bien. Par contre, si tu as besoin de plus de temps, que tu reprends pas, que tu as plus de difficultés, que qu'on a voulu passer outre le fait des problèmes sociaux avant et qu'on a mis les problèmes pro en premier, forcément, ça pourra pas aller. Donc, comme ça fonctionne pas, il se passe quoi ? On rentre pas dans les chiffres, on n'est plus sur le contrat et puis on disparaît quand on est arrivé. La seule évolution qu'il y a, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à trouver du positif, de façon à pouvoir, encore une fois, avoir tout ce qui est subvention et tout ça. Sortie positive, c'est-à-dire soit un départ à l'emploi, soit un départ en formation. On va faire tourner en bourrique un salarié pendant X mois de contrat, et puis arriver à la fin, parce que c'est la finalité du contrat et que ça risque d'être une sortie négative. Là, bizarrement, on trouve une formation bidon, un truc comme ça. Une remise à niveau, histoire de sortir un petit positif et de rentrer dans les chiffres. Et c'est ça que je trouve totalement illogique, alors qu'il y a 6 ans, quand j'ai démarré, on faisait tout pour le sortir en positif, mais par rapport à un travail qui avait duré depuis 6 mois, un an de contrat.
Dès lors que tu es motivé, tu vas prendre le temps pour accompagner les salariés, les t'intéresser à leur vie, à leurs projets, et puis au moins les intéresser à la tâche qui leur est demandée. Donc là-dessus, moi, je me suis senti compétent, mais en tout cas pas aidé. Et par contre, ce qui m'a le plus agacé, c'est qu'il y a des réunions qui ont une fréquence de je ne sais combien, je ne sais plus comment ils appellent ça, qui visent à réunir donc les financeurs, les conseillers d'insertion pro, et pas les encadrants. Bah oui, parce que si je vais à une réunion, j'ai 4 ou 5 bonhommes qui ne peuvent pas travailler. C'est du temps improductif. C'est non rentable. Et donc là, les financeurs ont décidé, en fonction d'une seule personne, le CIP, de dire bah, lui, on renouvelle, lui, non, lui, oui, lui, non.
J'ai déjà vécu interdire des gars à partir en formation alors qu'ils étaient inscrits, ils étaient financés, tout était bon, ils étaient dans la fin de leur départ, enfin, dans la fin de leur contrat. Leur interdire d'aller en formation parce que ces personnes-là, elles sont compétentes pour faire un certain chantier et que si on n'a pas ces personnes-là, ben forcément, ça n'ira pas. Donc du coup, on les interdit, on pousse à faire des heures alors que logiquement, on y est interdit. Et malgré ça, ben, on fait faire des heures, c'est pas grave si on en fait 35, même si le gars, il y a un contrat 20 heures. Puis il récupérera ben, quand on en aura envie, quand on n'aura pas de travail, quand on s'en foutra, quoi. Un gars qui se blesse, ben on va essayer de faire de façon à ce qu'il soit en arrêt, quitte à remplir soi-même le papier de sécu. Donc c'est tous des agissements que je trouve totalement anormaux.
Je connais pas les résultats de l'entreprise, hein, mais bon, je les ai quand même, ils sont quand même passés à mon oreille. Je sais que l'entreprise était prospère, donc elle dégageait du bénéfice, même si ce n'est pas le but premier. Et donc pour moi, c'est que par souci d'économie, quoi. Et donc dans un but voilà, lucratif, pour dire de dégager plus de marge, quoi. Pour moi, c'est ça, parce que l'argent, il y en avait.
Les logiques institutionnelles actuelles expriment un objectif de contrôle et de domination de la force du travail. Elles poussent à fournir au marché du travail locaux de la main-d'œuvre à bas coût dans des secteurs professionnels à forte pénibilité et à faible reconnaissance sociale pour des rémunérations elles aussi faibles. Cette adaptation du monde du travail est intégrée dans les parcours d'insertion par la recherche d'efficacité dans l'accompagnement et dans l'organisation interne des structures qui de plus en plus imitent l'entrepreneuriat classique.
Tu dois avoir un nombre de salariés à accompagner et tout. Mais pourquoi ? Parce qu'on est sur de l'argent public, d'accord ? Pour éviter les dérives. Il y a des structures, elles ne faisaient pas leur job. Donc à un moment donné, ils sont allés leur dire « Bon, mais maintenant, vous ne faites pas le job, on va vous demander d'en sortir tant. » Donc, attention, c'est pas parce que tu n'obtiens pas le chiffre que t'es pas, que ta structure a disparu. Ce n'est pas le cas, parce qu'on va tenir compte de ton bassin d'emploi, on va tenir compte de la réalité économique de ton territoire. Donc tu peux avoir une structure qui ne sort pas énormément de gens, mais qui a fait un énorme travail sur les freins, sur les problématiques d'habitat. Donc ils vont régler plein de problèmes, et ça sera la première étape, si tu veux, d'un parcours qui va aider la personne à reprendre sa route, tu vois ce que je veux dire. Moi, sur de l'argent public, qui est une demande de résultats, j'entends. Après, là où ça va être plus compliqué, c'est qu'on te dit, bon, ben, on vous finance, mais donc du coup, c'est ce métier-là et ce métier-là en priorité. que l'État dit on vous a donné 100, on vous a donné 1 million d'euros, on voudrait savoir ce que vous en avez fait et comment vous l'avez utilisé. Ça, c'est le contrôle a posteriori. On t'a laissé faire ta mission, on vient simplement contrôler ce que tu as fait de l'argent public. Enfin, voilà. Là où ça devient plus compliqué, en même temps, on te dit, bon, alors, on va vous donner de l'argent, mais vous allez faire ça, ça et ça et ça. Et là, c'est pareil. On parle d'individus en face, c'est des êtres humains. Tu reçois une personne, tu la rends dans ta structure, mais déjà, tu vas la c'est de la manipulation après. Donc, tu vas tout faire pour l'envoyer vers un secteur d'activité. Non. Si tu devrais faire de l'aide à la personne, c'est mieux. Pour moi, c'est de la manipulation. Pour moi, la mission, c'est une mission d'État. Je veux dire, on vient ici pour permettre à des gens qui ont chuté, qui ont mis un pied à terre, qui ont eu des galères, de pouvoir repartir, en leur donnant le temps et les moyens. Or, ça, c'était la mission. Mais si, entre-temps, on te dit, maintenant, il faut produire, eh ben, tu laisses un peu ta mission première pour de la production. On le voit bien dans la création des nouveaux métiers au sein de l'insertion par l'activité économique. Il y a des métiers qui n'existaient pas avant, chef de projet, directeur des affaires de l'administratif et du financier, responsable administratif financier. Donc c'est ces métiers-là, si tu veux, qui prouvent que ça, on change d'échelle. Et puis on a affaire à de moins en moins de petites structures. Alors au début, on se disait que c'était pas un mal, puisque des grandes structures, ça permet, si tu veux, d'avoir des CSE, ça permet d'avoir des moyens pour, tu vois, pour faire des choses, d'avoir des représentants du personnel et tout. Mais à l'arrivée, ben on crée des machines de guerre. On te parle de démarche qualité, on te parle de résultats économiques, on te parle de bénéfices. Ce n'est pas les mots que tu veux entendre sur un chantier, quoi. L'insertion. Ce que tu as besoin d'entendre sur un chantier d'insertion, c'est reprise de confiance en soi, autonomie au poste, acquisition de compétences, mise en parcours avec, si tu veux, prise en compte du projet professionnel, le rôle il est là.
Les personnes qui sont positionnées sur des actions du département, donc ce sont des personnes qui sont bénéficiaires du RSA, de manière générale, elles vivent ça un peu comme une obligation dans un premier temps, même si parfois il y en a certaines qui se rendent compte qu'effectivement ça a eu un effet positif sur leur situation ou dans leur vie, mais de manière générale, c'est un peu vécu comme une obligation. Parce qu'on leur rappelle qu'elles sont bénéficiaires du RSA, que c'est financé par le département du Pas-de-Calais, et que dans le cadre du RSA, on a des droits et on a des obligations également. Et ces obligations, c'est de participer à des actions qui concourent à son insertion sociale ou professionnelle. Peu importe l'action, si le référent a identifié l'action comme étant bénéfique pour la personne, vaudrait mieux que la personne intègre cette action, alors que c'est à cette personne de se rendre compte du bénéfice que peut lui apporter cette action.
Au départ, ça me convenait très bien, parce que je sortais d'une maladie de longue durée et d'un divorce. Donc, ça m'a redonné confiance en moi. Donc, au départ, ça me convenait très, très bien. Sauf que maintenant, j'ai fait le tour de ce métier. Je suis toujours un contrat aidé et je reste avec un salaire minimum. Et pour vivre, quand vous avez des enfants à élever, le salaire minimum ne va pas payer les études de mes enfants et ne me permet pas de me nourrir correctement. L'insertion, ça m'a redonné confiance en moi. Savoir que je pouvais faire quelque chose. À part que ça me procure du bien-être d'aller travailler. Et ça serait bien d'avoir des formations pour justement passer contractuel. Mais je n'ai pas eu de formation. Là, je vais avoir une formation pour de 2 heures pour utiliser un chariot. C'est pas une formation, ça.
Là, actuellement, avec l'ASN, on va dire que je suis assez. J'ai dû rester 2 ans, bah, ouais, pas plus, 2 ans. J'ai été content d'avoir quelques missions à faire, mais dans l'ensemble, ça n'avance rien du tout. C'est juste des contrôles comme ça, par-ci, par-là. C'est pas un CDI, ou qui débouche sur un CDI, on va être là. Et ça, faut comprendre, quoi. C'est vrai que quand on débute là-dedans, on se dit, bon, on va avoir un contrôle CDI, peut-être que j'aurai un CDI derrière. Mais non, jamais. C'est jamais comme ça. Si les contrats d'insertion servaient réellement à avoir un CDI derrière, ça se saurait.
Le contrat de travail, est-ce qu'il travaillait l'insertion? Alors, il ne travaillait pas l'insertion, il travaillait la réadaptation à un travail, à un rythme de travail, ce qui est tout à fait différent. Par contre, est-ce qu'il y a eu un travail lié à l'insertion? Je dirais non, pas du tout. En fait, la structure d'accueil se contente de vous donner un contrat de travail, de vous mettre à la tâche, point. L'insertion par l'emploi, c'est un concept, c'est une idée. Et tous les salariés en rigolaient. C'était « on vous remet au travail ». Et quand on veut les remettre au pas, on les remet au pas. Et en fait, ces pratiques-là s'uniformisent. Je serais pas étonné qu'il y ait des référents techniques qui soient employés à procéder à des coercitions sans s'en apercevoir parce que c'est l'usage. Tout simplement parce que c'est l'usage.
Dans un contexte de crise économique et d'hégémonie néolibérale, les orientations de la lutte contre l'exclusion ne peuvent se cantonner à la recherche d'efficacité en termes de retour à l'emploi. Les faibles résultats dans ce but à la sortie du parcours d'insertion doivent être compensés par un travail d'accompagnement d'une classe de personnes dont les droits à l'emploi ne sauraient trouver une solution dans une corvéabilité sur un marché du travail ultra concurrentiel. L'augmentation du nombre de contrats ne peut être une véritable politique sociale de solidarité avec les plus précaires si les dispositifs par lesquels ils transitent ne considèrent à terme que leur employabilité. L'engagement des salariés permanents de l'insertion ne doit pas occulter la perte de sens d'un travail social entamé par les objectifs de rentabilité et un management qui introduit des nouvelles formes de domination dans les structures de l'insertion par l'activité économique. La perspective positive ne se situe donc pas dans l'adaptation d'individus qui subissent déjà les conséquences néfastes de l'économie de marché, mais plutôt, pour paraphraser Bernard Balzani, dans la réappropriation collective de la capacité d'élaboration, de décision, d'action et d'orientation de l'insertion par l'activité économique par les publics accueillis. Un reportage de Luc Chaden de Micro Rebelle avec Florent, Karine, Maxence, salariés en contrat d'insertion, Kelly, Bastien, Emeric et Jean-Rémy, permanents dans différentes structures d'insertion, Benoît, gérant et administrateur de structures d'insertion, et Jean-Marc Tellier, vice-président du département au RSA à l'insertion et au logement. Dans un souci de conserver l'anonymat, les prénoms ont été changés.